Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur Radio Emma et nous sommes le mardi 23 novembre 2021 avec le temps plein qu'il y a en studio avec nous.
Mélina.
Oui.
Elsa.
Aïdé.
Lia.
Clémence.
Lilith.
Amélie.
Axel.
Jade.
Salomé.
Salut à tous, bienvenue à la radio. Et aujourd'hui, c'est une journée particulière parce que nous sommes très heureux de recevoir un invité qui n'est autre que François Crémieux, directeur général de l'assistance publique Hôpitaux de Marseille, soit le directeur de toute l'institution à laquelle nous appartenons. Bonjour Monsieur Crémieux.
Bonjour.
Bienvenue à la radio. Alors on va vous présenter quand même en quelques chiffres. Vous êtes né le jour le plus long de l'année érotique, soit le 6 juin 1969. Mais vous portez énergiquement vos jeunes 52 ans. En ce qui concerne votre formation, vous avez étudié à Paris, notamment à l'université de Paris-Dauphine, mais aussi à Lancaster, qui est située au nord de l'Angleterre. Commence un petit peu à bouger. Tout ça avant d'être diplômé en 1998 à l'École des hautes études en santé publique, soit l'une des grandes écoles françaises de la fonction publique. Enfin, il est difficile de recevoir quand même François Crémieux sans parler de votre engagement, parce que voilà, vous militez déjà au sein de SOS Racisme dans les années 90. Pour les autres, pour ceux qui ne savent pas, SOS Racisme, c'est une des grosses associations qui a lutté contre le racisme en France. Ensuite, vous avez beaucoup voyagé dans des zones de conflit, notamment à Kaboul en Afghanistan, à Beyrouth, au Liban, à Haïti ou encore en ex-Yougoslavie. Par exemple, en 1993, vous avez été volontaire en Bosnie. Vous en avez même fait un documentaire avec un des plus grands réalisateurs de documentaires indépendants, Chris Marker. Et en 99, vous avez dirigé un hôpital au Kosovo où vous avez cherché à protéger le personnel en fait albanais qui venait travailler en territoire serbe. Donc c'est voilà, grosse zone de conflit. Parce qu'en fait, il faut savoir que les conflits, justement, en ex-Yougoslavie, ils se sont étalés sur environ 10 ans entre 1991 et 2001. Et ça a été parmi les conflits les plus meurtriers en fait, d'Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu des génocides, des épurations ethniques, des crimes contre l'humanité, justement. Et ça a compris beaucoup de populations, parmi lesquelles les Serbes, les Croates, les Albanais, les Slovènes, les Bosniaques. Et il y a eu environ entre 130 000 et 140 000 morts. Enfin, c'était assez énorme. Donc voilà, on peut dire, Monsieur Crémieux, que vous êtes impliqué en fait, dans cette partie du monde très complexe, en joignant vos efforts à la grande histoire avec un grand H. Mais depuis le 3 juin 2021, c'est-à-dire le 3 juin dernier, vous avez rejoint une partie de la France, c'est une partie du monde mais un peu plus réduite, mais qui est non moins complexe puisqu'il s'agit de Marseille, en devenant directeur général donc, de l'assistance publique Hôpitaux de Marseille, faisant suite à 3 ans, vous étiez directeur adjoint de l'APHP, donc l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Donc bienvenue à Marseille déjà. Et si vous devez faire face à des questions humanitaires, parce qu'on est en plein Covid, à des questions financières, enfin bref, autant de pistes passionnantes en tout cas, pour autant de questions à poser autour de tout ce parcours qui est si riche et si intéressant. Mais on va reprendre le fil du temps, en commençant par le début, ou presque, c'est-à-dire l'adolescence. Donc je laisse Mélina vous poser la première question, et encore une fois, bienvenue Monsieur Crémieux à Radio Emma.
Merci beaucoup.
Quel genre d'adolescent étiez-vous ?
Alors, c'est pas la question la plus simple. En tout cas, j'espère que ce sera la plus compliquée de la journée. Avant de te dire quel adolescent j'ai été, je dois d'abord dire où est-ce que j'ai passé mon adolescence, qui a été pour moi un moment très marquant. J'ai d'abord grandi en France jusqu'à 14 ans. Et si l'adolescence commence à peu près à ce moment-là, après, j'ai grandi aux États-Unis. Et donc, en fait, j'ai passé mon adolescence aux États-Unis, tout près de la capitale américaine, qui est Washington. Et j'ai passé de 14 à 18 ans, donc toutes mes années de la troisième, seconde, première et terminale aux États-Unis. Et donc, je pourrais en reparler après, mais pour moi, ça a été très marquant, plus encore de quel adolescent j'étais que voilà, d'avoir vécu cette adolescence dans un pays qui n'était au début pas le mien, avec une langue que je parlais pas bien au début, l'anglais, que je parlais mieux à la fin, et après avoir quitté mon collège à Ivry-sur-Seine, là où j'avais grandi. Et donc, je crois que j'étais un adolescent curieux, peut-être, c'est la première idée qui me vient et qu'on va peut-être retrouver après dans mon parcours. Je crois que j'étais un adolescent plutôt sage, en tout cas j'étais pas un grand rebelle, j'étais un adolescent passionné par ce qui se passait dans le monde, et aux États-Unis par exemple, j'étais très marqué par deux choses à cette période-là, la fin de ce qu'on appelait le mouvement des droits civiques. Le mouvement des droits civiques, c'est le grand mouvement qu'avait emmené Martin Luther King dans les années 60 pour la défense des Noirs américains et pour l'égalité entre les Noirs et les Blancs. Et dans les années 80, quand je suis arrivé aux États-Unis, il y avait encore un peu de ce moment-là. Le problème du racisme n'est pas réglé depuis, évidemment, mais à l'époque, il y avait encore la suite de ce mouvement. Et puis mon adolescence a été marquée par un autre engagement autour de la lutte contre l'apartheid, puisque à l'époque, il y avait un régime en Afrique du Sud qui était un régime dirigé par les Blancs et avec un apartheid, c'est-à-dire une séparation complète entre les Noirs et les Blancs. Et à l'époque, j'ai passé beaucoup de mon temps d'adolescent à militer et à défendre ces causes-là, l'antiracisme et la lutte contre l'apartheid.
Waouh, passionnant. Est-ce que tout le monde a une notion de l'époque de l'apartheid et de Nelson Mandela, par exemple, ça vous parle à chacun, qui a passé 27 ans en prison, justement, et qui est sorti pour faire après, pour prendre la direction de l'Afrique du Sud? Ben, quel engagement, bravo! C'est impressionnant, en tout cas. Et en tant qu'adolescent, justement, découvrir un nouveau pays, une nouvelle langue, une nouvelle culture, et finalement un nouvel engagement, est-ce que ça vous a façonné? Est-ce que ça vous a fait grandir plus vite? Qu'est-ce que ça a provoqué?
Je ne crois pas que ça m'ait fait grandir plus vite. Ça m'a créé plein de souvenirs. Quand on se déplace comme ça dans l'adolescence, quand on vit des moments un peu forts, et c'est sûrement le cas de vous toutes autour de cette table, vous ne le savez pas encore, mais 30 ou 40 ans plus tard, ça crée des souvenirs. On se souvient de avant ou après un moment important, quand on a déménagé, quand on a changé de pays, quand on a changé d'école ou de lycée, quand on a. Et donc la chose principale, c'est que ce moment entre avant les États-Unis, après les États-Unis, c'est des moments qui marquent le temps. Et par exemple, si vous me demandez où est-ce que j'étais en 1974, je ne sais pas très bien vous dire, mais si vous me dites en 1983, je peux vous dire que c'était il y a très longtemps, mais c'est l'année où j'ai déménagé et où je suis parti habiter avec mes parents aux États-Unis. Donc comme ça, cette adolescence-là, elle m'a marqué avec des dates précises qui me permettent maintenant, longtemps après, de me souvenir à quel moment les choses se placent les unes par rapport aux autres dans cette grande échelle du temps où parfois on a un peu du mal à s'y retrouver.
Eh ben, quel début, en tout cas, c'est fantastique. Moi, je trouve ça passionnant et effectivement très prometteur pour la suite, notamment au niveau des engagements, c'est vrai. À ce propos, d'ailleurs, on va s'écouter tout de suite une musique que j'avais sélectionnée pour vous, justement, de Jill Scott Heron. The revolution will not be televised, où précisément, en fait, on est dans ce combat des médias de masse, mais aussi de l'antiracisme. C'est un poème qui avait été écrit par Jill Scott Heron, qui est un Africain-Américain, justement, ou un Afro-Américain, comme on dit, et qui, pour le coup, en fait, luttait aussi à sa façon contre cette ségrégation-là. Je vous laisse écouter ça, et on se retrouve juste après, en compagnie de François Crémieux. C'est parti sur Radio Emma.
Not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nubs. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still lights of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Green Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry Arm, woman liberationist, and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keyes, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with coke. The revolution will not fight germs that may cause...
Gilles Scott Heron, The Revolution Will Not Be Televised, qui est sorti en 71. C'est un peu un précurseur du rap d'ailleurs, avec la façon de lire un poème ou de dire un poème sur une musique. Surtout avec des grooves un petit peu comme ça, de jazz, etc. Voilà, Gilles Scott Heron. On est de retour sur Radio Emma avec François Crémieux, qui est le directeur général de l'assistance publique au Hôpital de Marseille. Et Elsa va nous poser la deuxième question.
Est-ce que votre adolescence a eu une influence sur votre parcours professionnel, une découverte, une rencontre ou une passion ?
Alors, je crois pas. Je crois que mon parcours professionnel s'est décidé après l'adolescence. Moi, mon adolescence, elle a été marquée par le fait que j'étais pas un très bon élève, pour dire les choses comme ça. J'ai eu un peu de mal à l'école. J'y étais pas très heureux comme élève. Assez logiquement, j'ai donc fini par louper mon bac. Je sais pas très bien où vous en êtes, mais à force de pas être très bon élève, ça finit par pas bien se passer. Donc j'ai loupé mon bac une première fois, je l'ai repassé après. Et donc en fait, moi, je me suis réveillé assez tard pour savoir ce que je voulais faire, et plutôt vers 23-24 ans qu'au moment de l'adolescence où j'étais très incertain, je ne savais pas très bien ce que j'allais faire dans la vie.
Comme quoi, tout est possible. Moi, je trouve que ça donne plein d'espoir de savoir ça. Non, et puis surtout aussi tard, en quelque sorte, par rapport, quoi, on est à 10 ans de maintenant, ou un peu moins, pour certains. Et du coup, c'est possible donc de se dire que le destin peut se forger aussi un peu plus tard. Tout n'est pas forcément écrit très tôt.
Il peut se forger très, très tard. Et c'est dommage. J'arriverai probablement pas à vous l'expliquer assez bien, mais je trouve que ce serait bien d'avoir eu 40 ans et puis de revenir ensuite à l'adolescence pour se rendre compte que quand on a passé ce cap-là, au début, on a l'impression que tout se décide tout de suite très vite et qu'il faut se dépêcher pour décider où est-ce qu'on veut travailler, qu'est-ce qu'on veut faire, quel métier on veut faire. Et puis, en fait, on découvre un peu trop tard que le temps est beaucoup plus long qu'il n'a l'air et qu'en fait, on aurait pu se donner plus de temps et que no stress, il n'y avait pas d'urgence. Voilà, moi, c'est par hasard, je ne l'avais pas décidé, mais je ne sais pas si j'ai beaucoup stressé, mais en tout cas, je me suis donné beaucoup de temps avant de savoir ce que j'allais faire.
Ce qui introduit parfaitement la troisième question. Vas-y, je t'en prie, Aïdé.
Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir vous impliquer dans des causes humanitaires et vers le soin ?
Alors moi, je suis pas sûr de m'être impliqué dans des causes humanitaires, comme tu dis. Moi, je me suis, je crois, impliqué dans ce que je dirais plutôt être des causes politiques. Moi, ce qui me faisait vibrer quand j'étais adolescent et après, c'était les inégalités. Les inégalités, encore une fois, quand j'étais aux États-Unis, entre les Noirs et les Blancs, les inégalités qu'il y avait en Afrique du Sud, les inégalités entre les riches et les pauvres, les inégalités entre des jeunes comme moi qui avaient plutôt eu de la chance. Moi, j'avais grandi dans un milieu aisé, avec des parents qui m'ont beaucoup aidé. Et ça, j'ai très vite compris que c'était une très grande injustice et qu'il y avait ceux qui étaient nés dans des conditions un peu favorables et puis ceux qui n'avaient pas eu de chance parce que voilà, je crois que c'est une des grandes chansons de la chanson française, être né quelque part où on voit qu'il y a beaucoup de destins qui sont en fait liés à là où on est né et pourquoi on est né là et à ce moment-là et pas ailleurs. Et donc, c'est pas tellement l'humanitaire qui a guidé ma vie, c'est plutôt cet engagement à essayer de comprendre le monde et puis d'avoir très envie de le changer. Et donc, on en reparlera peut-être après, mais quand je suis parti notamment dans des pays en guerre, c'était pas pour faire de l'humanitaire, c'était pour essayer parfois contre la guerre, parfois pour la guerre, mais d'essayer de changer le monde.
Ok. Déjà, ça reste très riche. Alors, c'est vrai que dans l'humanitaire, il y avait peut-être inclus l'idée de se tourner vers le soin et donc notamment la direction de l'hôpital au Kosovo avec l'implication, mais c'est une cause politique et c'est tout aussi honorable dans l'idée de s'impliquer pour faire changer les choses. C'est quoi l'idée ? C'est participer au changement du monde ou une amélioration du monde ?
Ouais, l'idée, c'est d'abord que il y a des fois, il faut changer le monde parce que voilà, le monde est injuste et qu'il faut essayer de le changer. La deuxième idée, c'est que on peut tous y contribuer. Pas pareil quand on est prof ou animateur de radio ou directeur d'hôpital ou médecin, etc. On contribue pas pareil à changer le monde, mais je pense qu'on peut tous y contribuer. En tout cas, faut toujours le penser. Il faut toujours penser qu'on est capable tous de changer un peu le monde. Voilà, donc c'est ça qui m'a beaucoup guidé.
Est-ce que ça vous fait réagir les autres par rapport à ça ? Est-ce que vous avez l'impression que À votre échelle, vous, vous avez aussi la possibilité de faire des choses, de vous impliquer dans des choses, ou de vous engager d'ailleurs, si c'est le cas. Clément, je te regarde, mais parce que je te vois très intensément à travers... Est-ce que toi, tu t'impliques déjà dans des causes, par exemple ?
Je m'implique, oui, mais enfin, c'est plus des croyances et des valeurs que je ressens, mais je vais pas me battre ou je vais pas manifester.
Il y a descendre dans la rue, effectivement, mais après, il y a aussi faire des choses au quotidien, par exemple. Aider des populations ou aider, je sais pas moi, la soupe populaire ou participer à des actions. Descendre dans la rue, c'est vrai que ce qu'on voit un peu plus majoritairement, d'ailleurs, surtout chez des gens de votre âge, c'est plutôt les manifestations contre le changement climatique et pour redresser un petit peu les choses. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont touchés par cette question-là ?
Oui, moi, beaucoup.
Ouais. Mais tu descends pas trop dans la rue pour ça, c'est ça ?
Non.
Oui. Mais tu changes autrement ?
Oui.
Comment ?
Bah, j'essaye de m'intéresser à beaucoup moins de choses qui polluent ou de... Je sais pas si j'ai la possibilité de donner de l'argent pour à des associations ou quoi, j'essaye de le faire. Mais bon, c'est vrai que l'occasion se porte pas tous les jours non plus.
Non, mais c'est sûr. Mais après, c'est toujours pareil. C'est des petites pierres qui mettent, en fait, petit à petit, debout un édifice, quoi. Et c'est ça qui aide à faire bouger les choses. Je sais pas, toi, Amélie, si t'es engagée dans des causes ou si d'entendre ça, en tout cas, ça te parle.
Bah, je sais que moi, avec mon père, on fait partie d'une association. Donc c'est quelque chose qui s'appelle la Team 13, c'est quelque chose du conseil régional, et en fait c'est pour les jeunes, et les moins jeunes aussi. Mais en fait, quand t'es mineur, il faut obligatoirement qu'il y ait un parent avec toi, mais on va faire plusieurs choses. Par exemple, cet été, on est allé ramasser les déchets sur les plages et du Delta Festival. Là, normalement, enfin dans les novembre-décembre, là je sais pas si je pourrais le faire, mais... Il y a la collecte alimentaire, les repas pour les restos du cœur, les dons de sang, tout ça, donc voilà.
Eh ben déjà, t'es sensibilisée à toutes ces causes-là et à toutes ces choses-là, et c'est déjà bien, quoi. Parce qu'en plus, tu donnes de ton temps et de ta personne, et tu te mobilises, quoi.
Bah ouais.
Mais ben, les autres, il y a quelqu'un qui a envie de rajouter quelque chose là-dessus ?
Moi, c'est plus pour la protection des animaux. Mon tonton, il a créé une association qui s'appelle Aves France. Et bah, il a travaillé avec des gens qui travaillent au gouvernement, et ils ont réussi à faire passer des lois pour les prochaines années pour la protection des animaux.
Eh ben, et toi, de savoir ça, ça te sensibilise, ça veut dire que tu l'aides un petit peu ou...
Ouais, bah, enfin, je l'aide. Enfin, par exemple, sur les réseaux sociaux, je repartage ses posts pour essayer de qu'il y ait un peu plus de visibilité, même si enfin, moi, j'ai pas beaucoup, il y a pas beaucoup de personnes qui me suivent, donc. mais je me dis, c'est déjà ça.
Mais non, mais c'est déjà aussi une façon de participer dans tous les cas, quoi. Mm. Eh ben, écoutez, merci. Si on s'écoute une petite chanson, Trei de Gete, c'est Squeezie,
c'est
du coup.
Roumain.
C'est comment ?
C'est du roumain.
Ah, c'est du roumain. Ben, c'est bien, on reste dans l'Europe de l'Est. On écoute ça, donc c'est parti, Squeezie, time, Trei de Gete.
Fericită ca mănânc un pepene, un pepene.
Sunt fericită ca mănânc un pepene, un pepene. Fără o samburi fericit. Dansăm în time, time, dansăm în time, time. Așa că bye, bye, plecând suntem gata să călătorim în time.
Egiptul antic, vestul sălbatic.
Preistorie, antichitate, da. Egiptul antic, vestul sălbatic.
Dansăm in time, așa că bye bye. Dansăm in time, time, așa că bye yo.
Dansăm in
I'm
Squeezie, Time, Trey Digit. On est vraiment dans le la musique de YouTube. Alors, la prochaine question, Lia, est-ce que tu veux la poser ?
Est-ce que les voyages vous ont beaucoup apporté, que ce soit sur le plan scolaire, humain ou l'engagement ?
Alors ça, c'est sûr que oui. La réponse, elle est simple. les voyages m'ont beaucoup apporté. D'abord, ils m'ont apporté d'apprendre l'anglais et de bien apprendre l'anglais, puisque je vous l'ai dit, j'ai grandi un peu aux États-Unis, puis après j'ai fait mes études en Angleterre. Donc ça m'a appris une langue et je pense que c'est très différent de parler une langue, deux langues, trois langues. Donc moi ça m'a apporté ça. Ça m'a apporté de comprendre et de toucher que le monde était différent ailleurs. Alors on sait tous que le monde est différent ailleurs parce qu'on voit les réseaux sociaux, on voit la télé, etc. Donc on sait bien qu'ailleurs c'est différent. Moi, ça m'a beaucoup apporté de rencontrer des gens qui vivaient dans d'autres pays aussi différents que l'Afghanistan ou les États-Unis. C'est évidemment très, très différent, mais je pense que ça m'a beaucoup marqué pour ça. De nouveau, je vous le disais tout à l'heure, mais ça m'a marqué des souvenirs très forts d'endroits, de moments, parfois d'odeurs. Il y a des moments où je rentre dans une voiture où il y a une odeur d'été particulière, et ça me rappelle des moments qui n'étaient pas forcément des moments en France, mais qui pouvaient être ailleurs. Il y a des fois, je vois des paysages où je me dis, tiens, ce paysage-là, il me rappelle un endroit où j'ai voyagé. Donc ça m'a beaucoup marqué, ça m'a beaucoup appris sur le monde qui pouvait être différent ici ou ailleurs. Et puis, ça m'a rapporté beaucoup de souvenirs. Après, je crois effectivement que de voyager, ça permet aussi de savoir que les choses peuvent fonctionner autrement que comme on les voit fonctionner tous les jours. Donc moi, je sais, par exemple, dans ma vie personnelle ou dans ma vie professionnelle, que ici, ça fonctionne comme ça, mais qu'ailleurs, ça peut fonctionner autrement. Et donc ici aussi, ça peut peut-être fonctionner autrement. Et qu'il n'y a pas de fatalisme, il n'y a pas une seule manière de faire. Peut-être que c'est un peu ça que les voyages ou les rencontres apprennent.
Mm-hmm. Les autres, pour ceux qui ou celles qui ont voyagé, est-ce que c'est des choses, ça vous parle tout ça, effectivement ? Ouais, Lia ?
Oui, moi je sais que j'ai quand même pas mal voyagé et il y a plein de trucs qui me rappellent. Même jouer à un art, je me dis, là je l'ai vu à tel endroit.
Exactement.
Ça renvoie à des souvenirs en fait.
Mais ouais, c'est ça, exactement. On continue, Clémence ?
Est-ce que vos souvenirs d'adolescence marquent encore votre vie ou inspirent votre travail ?
Oui, et puis surtout, ces souvenirs, d'une part, ils font un peu ce que je suis devenu, et puis ils continuent effectivement à marquer à la fois ma vie, à inspirer mon travail, peut-être aussi, encore une fois, ce qui est peut-être le plus important dans mon travail, qui est donc de diriger un grand hôpital, de travailler avec beaucoup de gens, et puis d'essayer de faire en sorte qu'on aille tous un peu dans la même direction. Ça m'oblige à essayer de bien comprendre ce qui anime les autres. Pourquoi est-ce qu'on a envie de travailler comme ci ou comme ça? Pourquoi est-ce qu'on est bien ou pas bien dans son travail? Pourquoi est-ce qu'on s'entend bien ou mal avec les gens avec lesquels on bosse? Et une partie de mon travail, c'est d'essayer de comprendre ça pour pouvoir ensuite faire en sorte qu'à l'hôpital, tout le monde essaye d'aller un peu dans la même direction. Alors, je ne sais pas si les voyages ou si mes souvenirs d'enfance m'y ont aidé, mais peut-être que c'est un peu tout ça qui permet de mieux comprendre les autres et d'essayer d'en tirer de l'enseignement pour mon travail. Puis je crois que ça m'a donné une autre chose, qui est que j'ai beaucoup travaillé dans des hôpitaux, notamment au Kosovo, en Afghanistan, un peu en Haïti. Et donc, dans mon quotidien, dans mon travail tous les jours, j'essaye aussi de comprendre qu'est-ce qui est particulier au pays dans lequel j'habite, et puis qu'est-ce qui est un peu pareil partout. Et quand on parle de la maladie, de l'hôpital, de la santé, c'est toujours très intéressant de faire la part entre ces deux choses-là. Par exemple, je raconte souvent, c'est un peu en rigolant, mais que il y a beaucoup de blagues dans la médecine sur entre les chirurgiens et les anesthésistes. Entre les chirurgiens et les anesthésistes, il y a des blagues dans le monde entier. Vous pouvez être à Kaboul dans un hôpital qui a été détruit, aux États-Unis dans un hôpital neuf ou en France, il y a des blagues entre les chirurgiens et les anesthésistes. Et il y a comme ça des éléments, et moi je trouve ça très amusant de voir à quel point à la fois les choses sont très différentes d'un endroit à l'autre, et à quel point parfois, en fait, elles sont très proches alors qu'on est dans deux lieux complètement opposés.
Qu'est-ce qui vous a amené, vous, à vous retrouver sur autant de terrains de guerre ? Politiquement, vous l'avez exprimé tout à l'heure, mais c'est ça qui a motivé d'aller spécifiquement dans ces zones à chaque fois ?
La première fois, qui est peut-être celle qui explique la suite, c'est quand, j'avais à peu près 23-24 ans, dans les années 90, quand il y a eu les guerres dont vous parliez tout à l'heure, qui étaient les guerres dans les Balkans. Et peut-être vous peut-être c'est évident pour vous, peut-être pas, mais les Balkans, c'est vraiment tout près. C'est-à-dire que Sarajevo, c'est à quelques heures de voiture, c'est une vingtaine d'heures en voiture, c'est tout près. Et à l'époque, on avait l'impression que la guerre, elle était vraiment à côté de chez nous, alors que souvent, on a l'impression que la guerre, c'est loin, c'est les autres, etc. Et qu'en fait, ça ne nous touche pas. Et à l'époque, il y avait cette idée très forte en Europe et en France que la guerre était juste à côté de chez nous. Et puis moi, je pensais que c'était une guerre où il y avait des gens qui étaient responsables de la guerre et qui avaient... un mouvement qui était un mouvement extrémiste serbe, ça ne veut pas dire que tous les Serbes étaient des extrémistes, mais le pouvoir serbe à l'époque était un pouvoir qui avait déclenché les guerres, d'abord en Croatie dont on parlait tout à l'heure, et puis ensuite en Bosnie, et puis à la fin au Kosovo. Et donc quand j'ai réfléchi à ces guerres et que j'avais cet engagement que vous avez rappelé, je me suis dit bah voilà, il faut mettre en accord ce qu'on fait avec ce qu'on pense, quoi. Si on pense qu'il faut faire la guerre pour arrêter un mouvement extrémiste et des partis extrémistes, et si on peut la faire, à ce moment, il faut y aller. Donc moi, j'ai eu cette volonté très forte de mettre en raccord ce que je pouvais penser avec ce que je pouvais faire. Et donc, je me suis engagé dans l'armée pendant à peu près un an et demi. Et puis, je suis parti comme soldat dans une compagnie de combat, donc en Bosnie, pendant un peu plus de 6 mois. Et puis, je suis revenu, j'ai poursuivi mes études. Et puis ensuite, par le hasard un peu des rencontres, j'ai eu envie de retourner dans les Balkans. Donc, je suis d'abord allé au Kosovo. J'ai passé un an au Kosovo à diriger cet hôpital qui était dans une zone qui était encore avec beaucoup de conflits et qui était tout juste sorti de la guerre. Et puis ensuite, par le hasard un peu des rencontres, je suis allé en Afghanistan juste après la fin de la guerre en Afghanistan. Un peu avant, j'étais allé pendant un moment où l'Algérie allait très très mal dans les années 98-99. J'ai passé du temps en Algérie à l'époque. Donc voilà, c'est à la fois des engagements, c'est la volonté d'essayer de faire le lien entre ce qu'on fait et ce qu'on pense, et puis un peu le hasard des rencontres, comme toujours.
Eh ben, moi je trouve ça très riche. Alors on va continuer avec de la musique à Sibonanga, là c'est votre choix. Johnny Clegg, puisqu'on parlait précisément de la ségrégation en Afrique du Sud, voilà un Sud-Africain blanc qui combat aux côtés des Noirs la ségrégation et qui le chante. Vous avez envie de dire un mot là-dessus?
Juste après?
Alors, ok, c'est parti. Asimbonanga, Johnny Clegg and Savuka.
Asimbonanga, Asimbonanga, Mandela Tina, La Pekona, La Pekelikona.
Asimbonanga,
Asimbonanga, Mandela Tina, La Pekona. La paix l'icône.
Bonanga, 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 Bonanga,
La paix qu'on a, la wafela qu'on a.
Victoria Mpenge.
Hasimbo nanga,
Hasimbo
nangu tati wechu. La paix qu'on a, la wafela qu'on a.
Neo Agate.
Hasimbo nanga,
Hasimbo
nangu mfo wechu. La paix qu'on a, la wafela qu'on a.
How niti yei wena,
yei wena,
yei wena,
yei wena nawe.
So figa nini la siya kuna, la siya kuna.
Hasimbo nanga,
Hasimbo
nanga.
Merci Bonanga, Johnny Clegg et Savuka. Wow.
Eh ben, c'est plein de souvenirs. D'abord, c'est les chansons, elles sont faites pour se rappeler le moment où on les a entendues, écouter avec qui on était, à quel moment, etc. Et Johnny Clegg, pour moi, c'est des grands concerts à Paris qui étaient organisés par SOS Racisme avec des centaines de milliers de personnes et notamment Johnny Clegg qui était venu chanter à Paris. Donc c'est d'abord ce souvenir-là, le souvenir de bandes de copains, de gens avec lesquels on écoutait cette musique. Et puis c'est le souvenir de l'apartheid, j'en parlais tout à l'heure, et du fait que ça a été un des grands combats de mon adolescence et dans le monde entier pour la libération de Nelson Mandela. Et Johnny Clegg, c'était un des porte-paroles, quoi. C'était un des grands chanteurs de la lutte contre l'apartheid. C'était un chanteur blanc, c'était d'abord un chanteur de rock. Et puis, cette chanson-là, c'est une chanson qui fait se rencontrer des musiques différentes, évidemment de la musique zoulou et puis de la musique de rock plus blanc, qui était le rock que jouait Johnny Clegg. Donc voilà, c'est des souvenirs, c'était un combat, c'est la libération de Mandela. Une des belles images de mon enfance, c'est la libération de ce monsieur. J'en ai presque de l'émotion en vous en parlant, quand on l'a vu sortir de prison avec sa femme.
Avec Winnie Mandela, effectivement. Et même s'ils se sont séparés après, Winnie et Nelson Mandela, ça reste vraiment un des couples mythiques de la lutte contre la ségrégation. Imaginez quand même qu'on était dans des années quand même pas très loin des nôtres maintenant, pour se dire, et il y avait encore écrit « toilette interdite aux noirs » ou « jardin réservé aux blancs ». Enfin, c'est un truc, c'est insupportable, quoi, d'imaginer que des choses comme ça ont pu exister, et il n'y a pas si longtemps encore, puisque ça fait partie de notre temps à nous, quoi. Donc, c'est des gens comme Johnny Clegg qui ont lutté contre ça, c'est les manifestations auxquelles on a assisté aussi qui ont porté ce mouvement-là, et c'est des combats, effectivement, qui sont très importants à mener, encore maintenant, d'ailleurs. Lily, on t'écoute pour la question suivante.
Quelle responsabilité implique la direction d'un navire comme la PHM ?
Je vais partir un peu loin pour revenir à la question, mais c'est d'être fidèle à ses convictions, à ce à quoi on croit. Je disais tout à l'heure, l'enjeu, c'est de faire le lien entre ce qu'on pense, ce qu'on croit bien et ce qu'on fait. Alors, ça peut paraître simple comme ça. Il y a des fois, c'est simple, c'est évident ce qu'il faut faire. Et puis, il y a des fois, la vie réserve des surprises et c'est parfois plus compliqué. Et quand on dirige un hôpital, c'est parfois compliqué de savoir comment est-ce qu'on gère le fait que parfois on n'a pas suffisamment d'argent, pas suffisamment d'infirmières, qu'on manque de moyens, que les bâtiments sont vieux alors qu'il faudrait qu'ils soient neufs ou récents. Et donc, il y a dans l'exercice de mon travail au quotidien le problème de faire ce lien permanent entre ce qui serait un peu l'idéal et ce que je souhaiterais faire et puis les contraintes et les difficultés pour le faire. Alors, j'essaye d'être le plus possible en raccord avec moi-même. Il y a des jours, c'est plus compliqué quand des équipes soignantes, comme des infirmiers, des médecins, des infirmières viennent me voir en me disant qu'on manque de monde, qu'on manque d'infirmières. C'est parfois compliqué de répondre à ça parce qu'on aimerait pouvoir faire différemment et on peut pas forcément. Et donc, la première responsabilité, je crois que ça implique de diriger un hôpital, c'est d'être fidèle à soi-même, fidèle à ses convictions. D'abord, c'est important pour moi et je pense que c'est important pour les gens avec lesquels je travaille parce que moi, je dirige un hôpital dans lequel les gens ont comme métier de soigner les autres. Moi, je ne soigne pas les gens, je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmier ou infirmière, mais je travaille avec des gens dont le métier, c'est d'être médecin, chirurgien, infirmière, aide-soignant, etc. Et eux, je sais quelle est leur responsabilité. Leur responsabilité, c'est de prendre soin des autres et d'essayer de faire en sorte de les soigner ou de les guérir ou en tout cas d'être au plus près de ces personnes malades. Moi, mon boulot, c'est d'être plutôt auprès de ceux qui soignent et d'essayer de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Donc voilà, je crois que ma responsabilité, c'est d'être fidèle aux équipes pour qu'elles-mêmes, elles soient fidèles à leur engagement auprès des malades.
Et voilà.
C'est souvent que ça marche pas comme je voudrais.
Effectivement. Bon, allez, on continue alors, du coup, Amélie, avec la question suivante.
Alors, est-ce que le Covid a représenté et représente toujours un des plus gros défis de votre carrière ?
Je ne crois pas que ce soit un des plus gros défis de ma carrière. Par contre, je crois que ça a été un incroyable défi pour les hôpitaux. Alors, voilà, pour ma carrière, il y a eu d'autres difficultés, d'autres enjeux, d'autres défis. Le Covid, ça a été un moment absolument exceptionnel dans les hôpitaux. Alors maintenant, c'est presque devenu un peu normal, malheureusement, parce qu'il y a eu la première vague, la deuxième, la troisième, la quatrième. Maintenant, on est à la cinquième vague. Donc, ben voilà, on commence un peu à s'habituer à vivre avec le Covid. Et d'ailleurs, on a tous un masque autour de cette table. Mais c'est vrai qu'au début, le Covid, c'était une inconnue incroyable. Et moi, j'ai commencé à m'occuper de la crise quand j'étais à Paris, puisque je suis arrivé à Marseille récemment. Et donc, le défi incroyable, ça a été pas tellement pour moi ou pour ma carrière, mais pour l'ensemble des hôpitaux et des équipes, de brusquement devoir complètement changer notre manière de voir les choses et de travailler. On avait cette épidémie qui était incroyable, on connaissait pas encore la suite. C'est une épidémie qui est arrivée extrêmement vite. Moi, je me rappelle, le premier malade est arrivé à Paris, c'était un monsieur chinois qui était en tourisme à Paris et qui a été hospitalisé vers, je crois que de mémoire, c'était le 19 janvier. Et malheureusement, ce monsieur est mort. Ça, c'était 19 janvier et début mars, il y avait une énorme épidémie à Paris. Il fallait soigner des milliers, prendre en charge des milliers de malades. Et donc voilà, ça a été un moment exceptionnel dans ma vie professionnelle. Ça a surtout été un moment exceptionnel pour nous tous. Et dans les hôpitaux, il a fallu changer complètement notre manière de réfléchir à ce moment-là.
Effectivement, ça a été un bouleversement pour tout le monde. Mais c'est vrai que comme ce sont tous les soignants, les infirmières et donc les hôpitaux qui étaient en première ligne de cette pandémie pour la gérer, enfin, et être à la tête de ça, ça doit être aussi un sacré défi à relever, quoi, justement. Alors, on va s'écouter encore un peu de musique. Official, toujours Squeezie. Ça, c'était toi, Amélie.
Ouais.
Tu veux dire un mot là-dessus ?
Bah, c'est encore les vidéos où il devait faire un hit des années 2000.
Ouais.
Et du coup, Time, c'était la chanson de l'équipe de Squeezie et là, c'est l'autre.
D'accord, ok. Bon, bah là, on passe sur ambiance scandale, là.
Ouais.
C'est ça. Allez, Official, c'est parti.
Pour impressionner, survêt de l'or sur tous les colliers. Physio recalme mais on persévère. Laisse rentrer le frère avant qu'il perde ses nerfs. C'est ambiance, tu connais déjà. Les deux bras croisés, tu connais le pas. Ce soir on s'illumine, ça s'immile pas. Parle-nous en français, prends subliminal. On a écrit nos rêves avant de les réaliser. Apprends à nous connaître avant de nous pénaliser. Frérot, t'as mis les crocos sans les chaussettes. Ce combo c'est une mauvaise idée. Les spots scintillent, les chaînes s'abritent. Tant qu'il y a de la zik, nous on s'implique ou on s'infiltre. Hey, bon sont même les tontons dansent, champion comme le sac champion.
On va au-delà de nos limites, ce soir on s'illumine, parce que au final, on est official. Au-delà de nos limites, ce soir on s'illumine, parce que au final, on est official.
Official, donc ils imitent. Bon son, de l'action, non y'a rien de fictif. On veut le big deal, défie pas l'équipe type. Ambiance scandale, ce soir ça va faire des victimes. Hier dehors, aujourd'hui je suis dedans. Cheveux gominés, je fais le petit pas de danse. J'étais dehors et maintenant je suis dedans. Cheveux gominés, je fais le petit pas de danse. Comme dans Bloodsport, tous les coups sont fermés. On est déclassé, près des gaines de vermine. Aucun verre vide, tu connais le verdict. Ce soir on fout la zermie. Avec le son de chez nous, quand j'arrive, ça va vite, évident. Schumacher dans le beau, idéalement. C'est nous les gentils, c'est eux les méchants. J'ai dit, c'est nous les gentils, c'est eux les méchants.
On voit au-delà de nos limites. Ce soir on s'illumine, parce que au final, on est official. Au-delà de nos limites, ce soir on s'illumine.
Tous les soirs on fait la part. pareil. Hey.
Ce soir, on s'illumine. Voir au-delà de nos limites. Ce soir, on s'illumine. Parce qu'au final, on est official. Au-delà de nos limites. Ce soir, on s'illumine. Parce qu'au final, on est official.
Official. Nous sommes de retour sur Radio Emma avec François Crémieux, qui est le directeur général de l'assistance publique Hôpitaux de Marseille et qui répond en fait à toutes nos questions. Alors là, on va passer une thématique un peu plus contemporaine de l'âge des ados. Mais alors vas-y Axel, on t'écoute pour la question suivante. Enfin, ça concerne les ados comme les adultes en vrai.
Regardez-vous des séries, lesquelles sont vos préférées?
J'avais vu... Le défi de la dame, peut-être, sur cette joueuse d'échecs. Le jeu de la dame. Donc, le jeu de la dame, par exemple, je m'en souviens, je l'ai regardé du début à la fin, et je me suis passionné pour ce personnage, et j'ai trouvé qu'elle était géniale, quoi. Et je me rappelle de la dernière scène, quand elle va jouer pour de vrai aux échecs, avec des vieux sur une place publique, et elle s'installe, et puis elle joue. Et donc, voilà, je vous cite cette série-là, mais j'en ai pas vu tant que ça. Hein, et, voilà, moi je préfère le cinéma parce que je trouve que voilà, 1h30 pour raconter une histoire, c'est bien. Des heures et des heures et des heures, on finit un peu par comprendre un peu le truc. Voilà, mais le jeu de la dame, j'avais trouvé ça super.
Eh ben oui, vous le jeu de la dame, on en avait parlé aussi, si vous aviez vachement aimé.
Ah ouais, c'est génial. J'ai adoré moi.
Moi aussi.
Ouais, tout le monde. Est-ce qu'il y en a que ça avait fait jouer aux échecs ou...
Ouais.
Ah oui ?
Oui. Ben, mon père, il m'avait déjà appris plusieurs fois comme ça, mais j'avais téléchargé une application après et j'y jouais tout le temps.
Ah ouais.
Ouais, ouais.
Et oui, c'est ça, ça a développé plein de vocations, ça. Et est-ce que vous, par rapport aux séries, vous êtes justement un petit peu dans cette idée de se faire harponner ou pas? Et d'avoir du mal à quitter l'enchaînement, quoi.
Ouais, mais moi, je préfère les films parce que c'est plus court. Les séries, j'arrive pas à accrocher.
Parce que ça demande trop de temps?
Ouais.
Ouais.
Moi, justement, je préfère les séries parce qu'en fait, vu que j'ai souvent rien à faire, ben, au moins, ça m'occupe. Et je sais que si je commande une série, je vais pas la terminer avant un bon moment. Du coup, ça va m'occuper. Alors qu'un film, il va falloir trouver le second et le encore. Et encore. Alors que la série, je sais que j'en ai pour un bon moment.
Ah oui, d'accord.
Alors, il y a un truc pour ça, c'est parfois quand si tu regardes un film qui te plaît, il faut regarder qui a fait le film. Et puis, il faut aller peut-être tirer la ficelle et puis voir d'autres films qui ont été faits par le même réalisateur.
Très bon conseil. Et une fois que tu as fait ça, tu prends les acteurs qui te plaisent et tu vois dans quels autres films ils ont joué.
Ça, tu le fais déjà.
Oui, quand tu aimes bien un acteur, tu vas essayer de le retrouver ailleurs.
Bah, non, c'est pas que je vais essayer de le retrouver. C'est que quand je le vois dans un autre film, je le regarde directement. J'ai même pas besoin de lire ou quoi.
Ah oui. Ok. La suite. Jade.
Êtes-vous sur les réseaux sociaux? Un peu, beaucoup, pas du tout?
Un peu.
Ah.
Alors, je suis un peu sur les réseaux sociaux. Alors, peut-être on n'est pas tout à fait sur les mêmes, donc on va avoir une petite explication entre nous. Je suis un peu sur Twitter, où je fais pas beaucoup de tweets, mais peut-être une ou deux fois par semaine, maximum, quand je pense qu'il y a une information autour des choses qui sont importantes pour moi ou autour de l'assistance publique et des hôpitaux à Marseille. Et par contre, je suis très peu sur les réseaux sociaux pour parler de moi. Voilà, je parle très peu de moi, de ma vie, de mes loisirs, de ma famille, même pas du tout. Voilà.
Vous mettez pas des selfies sur Instagram?
Je ne mets jamais de selfie. Je crois que je ne mets jamais de selfie nulle part et je n'ai pas de compte Instagram.
Twitter, vous y allez de temps en temps ou pas? Pas trop, hein. Pourquoi? Parce que c'est trop méchant comme média?
Moi, j'ai entendu trop de trucs dessus et ça m'a pas donné envie. Enfin,
ouais. Mais Twitter, on a fait sa marque de fabrique un petit peu quand même.
Bah, disons que les autres sociaux, ils sont plus hypocrites alors que Twitter, il est franc. Donc, au moins...
Plus ou moins, moi je le verrais pas comme ça. Hein. C'est pas de la franchise que de déverser des choses sous couvert d'anonymat et de dire, ouais. Tu vois, vraiment des méchancetés sur des gens, parfois même très souvent très infondées, juste pour attiser un petit peu des guerres ou des conflits, enfin, tu vois, entre les gens.
Ouais, moi je crois pas que ce soit de la franchise. D'ailleurs, souvent les méchancetés sur Twitter, les gens ils se les diraient pas s'ils se voyaient.
Ouais, c'est ça.
Ils se parleraient pas comme ça, ils s'insulteraient pas comme ça. Et donc, voilà, parfois les réseaux sociaux mettent de la distance et parfois c'est bien parce que ça permet de se parler même quand on se connaît pas, mais qu'on a des passions communes ou qu'on a des choses à se dire. Et puis parfois la distance, ça permet aussi de se dire de très grandes méchancetés que jamais on n'oserait dire si on rencontrait la personne, parce que voilà, on la rencontrerait, on lui parlerait pas comme ça. Et donc je crois pas que ce soit de la franchise. Voilà.
Est-ce que vous vous sentez un peu dévoré par vos écrans, vos téléphones, en dehors de l'hôpital, hein, parce que c'est vrai qu'à l'hôpital c'est différent, vous avez moins le téléphone comme à la maison, mais quand vous êtes chez vous, est-ce que vous êtes plutôt assez...
Moi, non.
Non, Lilith ?
Non.
Moi, c'est vraiment que quand je m'ennuie, donc quand j'ai rien d'autre à faire.
Donc ça veut dire que si un jour vous oubliez votre portable à la maison et que vous sortez, c'est pas du tout la fin du monde pour vous ?
Non, moi, enfin par exemple, là je l'ai oublié chez moi, c'est pas grave.
Ah ouais, carrément.
Enfin, je m'ennuie beaucoup le soir, mais c'est pas grave.
Mais moi, c'est plus ça me fait peur quand je sors ou quoi, parce que je me dis, imagine, il arrive quelque chose, je peux rien faire. Quoi. Enfin, le téléphone, pour moi, c'est plus un moyen de sécurité. De dire,
si tu l'as pas, t'auras du mal à appeler quelqu'un en cas de besoin urgent, d'accord. Oui.
Parce que moi, je n'ai pas demandé aux personnes, même s'il se passe un truc grave, je ne demanderai pas aux personnes de l'aider comme ça.
Trop dur de demander aux gens que tu ne connais pas ?
Oui.
Ouais. Ok, c'est vachement intéressant. On va s'écouter encore une chanson avant de passer à la toute dernière question. Donc Roddy Ricch, The Box. C'était le choix de Axel. Allez, c'est parti.
Mojo deals, we been trapping like the 80s. She said the nigga soul, got the cash out. Told him wipe a nigga nose, say slash slash. I won't never sell my soul, and I can back that. And I really wanna know where you at, where? I was at that, where the stash at? Cruise the city in a bulletproof Cadillac. Cause I know these niggas out there where the bag at. Gotta move smarter, gotta move harder. Nigga try to give me 5 mile water. I lay his ass down on my son, on my daughter. I had the Draco with me, Dwayne Carter. Lot of niggas out here playing, ain't ballin'. I done put my whole arm in the rim, Vince Carter. And I know Poppy get a key for the quarter. Shotty Bentley seen the double C's, I bought her. Got a bitch that's looking like a Leah, she a model. I got the pink slip, my whip is keyless. Compton, I'm about to get the key to the city. Patty, light up the seat. Forgetting out the coupe at the lot. Tony fuck 12, fuck SWAT. Busting all the bells out the box. I just hit a lick with the box. Had to put the stick in the box. Pour up the whole damn seal. I'ma get lazy. I got the mojo deals. We been trapping like the 80s. She said the nigga soul. Got the cash out. Told him wipe a nigga nose. Say slash slash. I won't never sell my soul. And I can back that. And I really wanna know. I've been moving them out. And steal it with me, then he got the blues in the pouch. Took her to the forest, put the wood in the mouth. Bitch, don't wear no shoes in my house. The pilot I'm flying in, I never wanna fly again. I take my chances in traffic. She sucking no dick, no hands with it. I just made the rolly plane like a landing strip. I'm a 2020 president candidate. I done put 100 bands on Zimmerman shit. I been moving real gangster, so that's why she pick a crit. Shawty call me Chris Cole, cause I pop my shit. Got it out the mud. There's nothing you can tell me. Yeah, when I had a job, South Street wealthy. Yeah, out the coupe at the lot. Tony fuck 12, fuck SWAT. Bustin' all the bells out the box. I just hit a lick with the box. Had to put the stick in the box. Pour up the whole damn seal. I'ma get lazy. I got the mojo deals. We been trapping like the 80s. She said the nigga soul. Got the cash out. Told him wipe a nigga nose. Say slash slash. I won't never sell my soul, and I can back that, and I really wanna know.
Roddy Ricch, The Box. Alors, on va continuer avec la dernière question. Mais avant ça, déjà, est-ce que vous, tout ce que vous avez entendu ici entre les combats contre les injustices, s'impliquer, faire ce qu'on dit, dire ce qu'on fait, est-ce que dans tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, il y a des choses qui vous font réagir ou des questions que vous voudriez poser Est-ce que vous saviez qu'il fallait pas être forcément médecin pour être directeur d'hôpital, par exemple? Parce que ça, c'est un truc qu'on on s'imagine pas forcément au départ.
Pour répondre à la question, en fait, je m'étais pas trop posé la question.
Et voilà.
Je savais même pas qu'il y avait un directeur de la PHM.
Ah oui, c'est vrai.
Moi, je pensais qu'il fallait être médecin.
Oui, c'est ça. En général, c'est vrai que c'est un peu le réflexe systématique qu'on pourrait avoir. Et comment ça se fait qu'on soit pas médecin pour être directeur d'hôpital?
Eh ben, on pourrait l'être. Donc moi, je suis pas médecin et en général, en France, les directeurs d'hôpitaux sont rarement des médecins. Mais quand on voyage, on s'aperçoit que partout ailleurs dans le monde, les directeurs d'hôpitaux sont presque toujours des médecins. Alors souvent, c'est des médecins qui ont un peu arrêté la médecine quand même, parce qu'on peut pas tout faire dans la même journée. Après, moi, je pense qu'on peut être un très bon directeur d'hôpital en ayant fait de la médecine ou pas fait de la médecine. Ce qui est intéressant dans les deux cas, c'est de s'intéresser à la médecine, d'essayer de comprendre comment fonctionne l'hôpital, quelles sont les relations entre les gens qui y travaillent, avec les patients. Mais en France, c'est souvent des gens qui ont plutôt fait des études d'économie ou de sciences politiques ou l'école dont on parlait tout à l'heure, qui est l'école des directeurs d'hôpitaux, l'école de santé publique. À l'étranger, c'est souvent des médecins.
Mais c'est peut-être parce que c'est du soin, mais de loin. C'est pas vraiment toucher aux personnes.
Exactement. C'est une très jolie formule. C'est du soin, mais de loin. Je la retiendrai, celle-là. Et ouais, quand on me demandera ce que tu fais, je dirais je suis directeur d'hôpital. C'est du soin, mais de loin. effectivement, on n'est pas en lien direct avec les malades. On est en lien direct avec ceux qui sont en lien direct avec les malades. Donc, c'est exactement ça.
Waouh, t'as trouvé le slogan, l'IA, de l'hôpital. Non, mais c'est vrai, en plus, c'est très beau et c'est très joliment dit. J'allais faire une analogie avec le monde du cinéma, mais parce qu'on dit que les réalisateurs, en fait, sont un peu les chefs d'orchestre aussi d'un film, et que même s'ils ne savent pas forcément tenir une caméra, éclairer, prendre du son, parce qu'ils ne sont pas spécialistes de chacun de ces métiers-là, c'est eux qui sont quand même le stylo qui fait écrire tout cet alphabet-là. Quoi.
Donc, alors, je vais venir plus souvent parce que je trouve que vous donnez une définition de mon métier qui est très belle. Et donc, merci beaucoup.
Mais c'est nous qui vous remercions d'être là. La dernière question, Salomé.
Reste-t-il un peu de l'adolescent que vous étiez dans l'adulte que vous êtes devenu?
Alors, c'est une bonne dernière question. peut-être pas tant que ça. J'ai l'impression que ma vie d'adulte, elle est très, très différente de ce que je pouvais être quand j'étais adolescent, ou alors peut-être j'étais adulte tôt, je sais pas. Mais j'ai plutôt l'impression d'être vraiment, vraiment sorti de l'adolescence et finalement d'avoir embrassé une vie d'adulte. Et je crois que j'ai plutôt été plus heureux comme adulte que comme adolescent. J'ai trouvé que vieillir c'était plutôt sympa, que grandir c'était sympa, que prendre son autonomie c'était bien. Ma réponse est que je crois pas qu'il y ait beaucoup de l'adolescent que j'étais, ce qui n'empêche pas d'avoir plein de souvenirs et puis de s'être construit aussi sur cette période-là. Mais je crois qu'aujourd'hui je me sens loin de mon adolescence. Ouais, moi je crois que j'ai essayé d'être
cohérent.
Ce qui est difficile, ouais, d'être cohérent et d'être fidèle. C'est pas facile. On est dans un monde, je trouve, qui bouge énormément. On se pose plein de questions. Il y a plein de grandes interrogations. Tout à l'heure, on parlait du réchauffement climatique. On peut parler de plein d'autres choses. Et donc, je trouve que c'est pas très facile dans ce bruit permanent de se demander un peu, peut-être de temps en temps, qui on est. Et puis surtout, voilà, qu'est-ce qui est important pour moi et à quoi j'ai envie de consacrer ma journée. Voilà, j'ai essayé d'être cohérent tout au long de cette période. C'est pas toujours facile, mais c'est un objectif un peu de tous les jours.
Mais en tout cas, merci infiniment d'avoir partagé tout ça avec nous. Vraiment, c'était très précieux d'avoir toutes ces réponses et d'avoir vécu ce moment-là ensemble. Et encore merci d'être venu passer du temps avec nous à Radio Emma. On va se quitter avec un dernier morceau qui est en fait un thème de fin, ce qui n'est pas plus mal tant qu'à faire. Donc c'était le thème de fin de Grease. Clémence, tu veux nous dire qu'un mot là-dessus?
C'est une musique qui a bercé toute mon enfance, et surtout le film et toutes les bandes, la bande originale, elle est magique, quoi.
J'ai un truc à dire, c'est qu'on ne fait que la chanter, surtout en ce moment.
Merci encore François Crémieux d'avoir été parmi nous aujourd'hui.
Merci.
Vraiment, c'était un plaisir. Nous, on se quitte avec donc Grease Ending Theme. Portez-vous bien. On se retrouve bientôt. Ciao, ciao.
Ciao. Ciao. Change.
sign. A boogie 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 shooby doo wop shabop. Chang chang changity change bop. We'll always be like one.